en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Chateaubriand est membre de la Chambre des Pairs et ministre d'État. Il se range avec des nuances dans la majorité issue de la Chambre introuvable, ce qui lui vaudra d'ailleurs de perdre sa charge toute honorifique de ministre d'État lors de la dissolution de cette Chambre le 5 septembre 1816. La lettre sur l'Institut qu'il publie au début de 1816, anonymement à Paris dans le journal des débats et signé à Londres dans la revue L'Ambigu, est un texte assez nuancé qui contient beaucoup d'allusions politiques et reflète assez bien l'embarras de sa position. Sa portée principale n'est pas, comme il a été prétendu, de sauver l'Académie française. Louis XVIII a déjà manifesté sa décision de rétablir les Académies royales. C'est en réalité le sort de l'Institut qui est en suspens. Sous la Convention, après que les Académies eurent été supprimées, l'Institut national fut créé, selon le discours de Boissy d'Anglas, je cite pour avoir la couleur du temps, de l'éloquence, pour offrir dans son ensemble le plus haut degré de la science humaine. Il faut que ce que tous les hommes savent y soit enseigné dans sa plus haute perfection. Il faut que tout homme y puisse apprendre à faire ce que tous les hommes de tous les pays embrasés du feu du génie ont fait et peuvent faire encore. Il faut que cet établissement honore non la France seule, mais l'humanité tout entière, en l'étonnant par le spectacle de sa puissance et le développement de sa force. Vous encouragerez ces travaux communs, desquels jailliront avec une force doublement active tous les rayons qui doivent éclairer le monde. Alors ce programme grandiloquent, inspiré de la philosophie des Lumières, n'a pas été perdu de vue. Il a réuni un grand nombre d'authentiques savants et hommes de lettres, et Napoléon lui-même, fier d'avoir été élu membre de l'Institut comme général d'artillerie, l'a constamment protégé et encouragé, sans s'arrêter au fait que parmi ses membres figuraient certains conventionnels, artisans de la terreur et du régicide. Le rétablissement des Académies royales en 1816 pouvait, dans l'esprit de la Chambre introuvable, s'accompagner de la suppression de l'Institut créé par la Convention pour leur succéder. La question fut en délibération pendant quelques semaines, et c'est précisément pendant ce laps de temps qu'intervient la prise de position de Chateaubriand. Et celui-ci la formule de manière forte, originale et courageuse pour l'époque, et pour s'en convaincre, il n'est que de lui laisser la parole. Je le cite. « Je suis royaliste incorrigible. Vous attendez peut-être que je ne peux pas manquer la destruction. » Observez, tout malsonnant qu'il est et qu'il doit être, il a pourtant réuni une congrégation d'hommes qui ne sont pas dans l'Europe sans quelque renommée, et dont quelques-uns auront des droits à l'immortalité. Ce serait une grande faute de renoncer à ce que la Révolution peut avoir produit d'heureux au milieu de tant de malheurs. Si les sciences et les arts ont produit quelque chose de beau pendant la Terreur, c'est notre héritage. Nous devons le réclamer comme nous réclamons les hauts faits d'armes de la Vendée, comme nous nous approprions les actions généreuses qui, dans ces temps déplorables, ont sauvé l'honneur de notre pays. Conservons donc, je le répète, ce nom d'institut. Tout mot que la gloire a adopté est français. Mais si je consacre le nom de l'institut, je détruis l'ordre numérique des classes. Elles reprennent dans mon plan leur ancien nom d'académie. Et c'est ici un avantage incontestable de mon système. En réunissant les académies sous un nom commun, elles se prêtent un appui mutuel. Si l'une s'affaiblit, l'autre se fortifie. Uranie se présente dans l'absence de sa sœur Melpomène. Et lorsque la sévère Clio se retire, la gracieuse Polymnie peut nous distraire et nous consoler. C'est une idée belle et féconde d'avoir fait un tout des diverses branches de l'intelligence humaine. En effet, les lettres, les sciences et les arts se tiennent par des liens secrets. Tout est dit. Louis XVIII lut probablement et en tout cas approuva la lettre sur l'Institut, puisque son ordonnance du 21 mars 1816, 11 jours après la publication de l'article, la met en application et que son exposé des motifs résume le programme même de Chateaubriand. Je le cite, « Nous avons vu avec une vive satisfaction la considération et la renommée que l'Institut a méritée en Europe, aussitôt que la divine Providence nous a rappelés sur le trône de nos pères. Notre intention a été de maintenir et de protéger cette savante compagnie, mais nous avons jugé convenable de rendre à chacune de ces classes son nom primitif, afin de rattacher leur gloire passée à celle qu'elles ont acquise, et afin de rappeler à la fois ce qu'elles ont pu faire dans des temps difficiles et ce que nous devons en attendre dans des jours plus heureux. » Un mot est à relever dans ces paroles royales, c'est le mot « aussitôt ». Parce que dans cet aussitôt s'insère justement la lettre sur l'Institut et la démarche de Chateaubriand qui a peut-être été décisive. Dans cet aussitôt se trouve l'origine de cette construction institutionnelle prestigieuse et originale, si particulière à la France et dans laquelle nous vivons encore. Il est curieux que ce texte, véritablement fondateur, n'ait été repris dans aucune des publications des œuvres complètes de Chateaubriand. Et n'ait plus jamais été cité ni reproduit depuis 1816. Il est cependant à la source à la fois de la plupart de nos développements institutionnels et d'une partie de nos travaux. Renan ne s'exprimait pas autrement dans sa phrase célèbre qui, elle, de son discours de 1867, a été constamment reprise. Je le cite aussi, « L'Institut est une chose qui est propre à la France. Plusieurs pays ont des académies qui peuvent rivaliser avec les nôtres pour l'illustration des personnes qui les composent et l'importance de leurs travaux. La France seule a un institut où tous les efforts de l'esprit humain sont comme liés en un faisceau, où le poète, le philosophe, l'historien, le critique, le mathématicien, le physicien, l'astronome, le naturaliste, l'économiste, le juriste, le sculpteur, le peintre, le musicien peuvent s'appeler confrères. » Il est curieux que lors des recherches approfondies qui, en 1995, accompagnèrent la célébration du bicentenaire de l'Institut, aucun de nos confrères ne découvrit la lettre sur l'Institut. Et lorsque, au début de 2014, pour préparer ma communication à l'Académie des sciences morales et politiques du 6 janvier, sur l'institution académique des sciences morales et politiques, c'était le sujet, je parcourus toute la recherche universitaire, très riche d'ailleurs et précise, publiée sur le sujet depuis 2000. Et je ne vis aucune allusion à la fameuse lettre qui devait réapparaître une semaine plus tard. Il est des circonstances dont le cours semble irrévocablement fixé par le destin. L'entrée dans la bibliothèque de l'Institut en moins d'un mois d'un manuscrit disparu depuis près de deux siècles, découvert fortuitement et révélé par un catalogue de vente, tient de ces enchaînements irrésistibles. J'ai mentionné dans ces propos les passages du manuscrit qui intéressent particulièrement l'histoire de l'Institut, mais les 14 pages de la lettre contiennent bien d'autres vues sur l'Académie française, sur la politique culturelle selon Chateaubriand, sur la politique transactionnelle qu'il préconise en 1816. Et donc mes confrères, Mme Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, M. Jean d'Ormesson, M. Marc Fumaroli, veulent bien évoquer ces différents points de vue. Mais je ne puis terminer mon propos sans exprimer la très profonde reconnaissance de l'Institut pour les personnes qui ont concouru à l'heureux événement que nous célébrons. J'ai nommé Mme Julie Ladan de la mission de l'information scientifique et technique et du réseau documentaire du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a autorisé la préemption. Mme Mireille Pastoureau, sous la direction de laquelle la préemption a été réalisée, et Mme Michèle Moulin, conservatrice ici à la bibliothèque, qui s'est rendue à la vente et qui a donc prononcé la parole sacramentelle. Et surtout, notre confrère, M. Jean Bonnat, notre éminent mécène, qui, par un geste jupitérien, aussi clairvoyant que généreux, a réglé le destin, c'est-à-dire la destination, de la lettre sur l'Institut vers son havre final, la bibliothèque de l'Institut de France. Merci beaucoup.
chers confrères, car je salue d'abord M. Jean Bonnat, notre mécène. On me pardonnera ce petit détour. Monsieur le chancelier, messieurs, madame les secrétaires perpétuels, chers confrères, mesdames et messieurs, cette lettre de Chateaubriand, elle touche les questions de l'Institut, elle touche les questions de l'Académie, mais je dirais que pour l'Académie française, elle intéresse d'abord l'Académie française. Et lorsqu'un journal avait évoqué cette lettre, nous avions été très frappés de voir que le journaliste qui avait très rapidement lu le texte de Chateaubriand ou qui ne l'avait pas lu, disait il supprime l'Institut, mais l'Académie, il n'était pas très sûr. Enfin, il disait il garde l'Académie, il ne garde pas l'Académie. Nous étions un petit peu perplexes. La vérité, c'est qu'une fois qu'on lit cette lettre, on est frappé d'abord par la concordance des dates entre la lettre qui a été publiée le 10 mars 1816 et l'ordonnance du 21 mars 1816. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'un tout qui est très important. Et il me semble, pour ce qui intéresse les académiciens français, que cette lettre doit être lue à la lumière d'abord des rapports de Chateaubriand et de l'Académie et de l'histoire de l'Académie. L'Académie française, en presque 4 siècles d'existence, a compté plus de 700 membres. Chateaubriand, certes, ils sont tous supposés immortels, mais parmi les immortels, il en est de plus immortels que d'autres, et Chateaubriand compte parmi les plus immortels. Par conséquent, ses propos sont particulièrement importants. Alors, deux mots d'abord de Chateaubriand. Chateaubriand, tout le monde le sait, mais il est bon de le rappeler, avait été élu en 1811 à l'Académie française. D'ailleurs, c'est une histoire compliquée parce qu'il a été élu. On dit que Napoléon avait souhaité son élection et puis il avait des difficultés déjà avec Chateaubriand, mais enfin qu'il avait joué un certain rôle là-dedans. Chateaubriand est donc élu. Il écrit un discours qui, soumis à la commission de lecture, a épouvanté parce que, bon, il n'avait rien, quand on relit ce discours, il n'y avait rien de terrifiant pour Napoléon, mais enfin, il évoquait les régicides, il était assez, il avait des propos qui pouvaient blesser Napoléon, et c'est ce qui s'est passé. Chateaubriand, entendant parler de ce discours, a demandé à le lire. Quand on lit les récits de la lecture de Napoléon, on constate qu'il s'est mis dans une colère noire. Il a dit d'ailleurs que parler de régicides, alors que lui était obligé d'avoir des régicides à sa table et qui pourrait en être le plus blessé, c'était parfaitement choquant. On a donc demandé à Chateaubriand de corriger son discours, de l'atténuer. Il a refusé et il n'a jamais lu ce discours. Alors, je dirais tout de suite qu'il a eu peu d'estime, je crois, après pour ses confrères. On le voit après 1816, car une fois l'Académie restaurée, Chateaubriand a trouvé sa place à l'Académie sans prononcer de discours, et il y est très peu venu. C'est certainement le signe d'un certain scepticisme devant ceux qui n'avaient pas su courageusement réagir à la réaction napoléonienne en 1811. En tout cas, Chateaubriand écrit donc cette lettre, et il faut regarder l'histoire de l'Académie, quelle place elle trouve dans l'histoire de l'Académie. L'Académie avait été supprimée à la Révolution, elle avait retrouvé alors une place pitoyable, Bainville dit, elle était la cendrillon de l'Institut dans les premières années de l'Institut, elle n'existait pas, et je trouve que l'expression est très juste. En 1803, après la réforme du Trois Pluviôse de l'an 11, l'Académie réapparaît, mais elle réapparaît au sein de l'Institut, elle réapparaît en deuxième classe avec ses 40 membres et elle recommence à grandir et à vivre. Elle retrouve son existence, mais il faut se souvenir que cette académie s'était battue pour retrouver une place. Et l'abbé Morlaix, avec l'aide de Lucien Bonaparte, avait véritablement milité pour que l'académie soit restaurée, pas au sein de l'Institut, mais sous son nom d'Académie française, telle qu'elle avait existé. Alors, dans la réforme de Pluviose, elle est deuxième classe de l'Institut, pas première classe déjà, et de surcroît, elle n'a pas son nom d'Académie française, elle est une classe, ce qui a beaucoup heurté ses membres. Mais néanmoins, elle a retrouvé un secrétaire perpétuel, elle a retrouvé une vie. Une partie des académiciens diront « Notre Académie est ressuscitée », c'est ce que Lacretelle aîné avait dit dans un discours de réception. Il avait dit « Les discours de réception ont repris place ». Immédiatement, et Lacretelle aîné a dit « En fait, l'Académie existe à nouveau ». Bon, mais elle restait dans un statut un petit peu compliqué. Alors c'est le statut, c'est l'ordonnance de 1816 qui va lui redonner son existence. Alors regardons d'abord ce que dit Chateaubriand dans sa lettre à ce propos. Ce qui me paraît le plus important, c'est-à-dire 11 jours avant l'ordonnance. D'abord, bon, il dit qu'il faut conserver l'Institut et les académies classées selon leur ordre naturel, c'est-à-dire en tête l'Académie française. Et alors là, il a un petit détour, il s'interroge, il dit certes, les lettres ont aujourd'hui moins d'actualité, de force que les sciences, mais néanmoins, elles ont la durée pour elles, et par conséquent, l'Académie française doit être la première. Il modère les choses en disant que tout cela sera à l'intérieur de l'Institut qui se réunira une fois par an. Je rappelle que dans l'Institut Ancienne Manière, il y avait 4 réunions communes des académies. Une, c'était beaucoup plus allégée. Alors, donc l'Académie doit avoir la première place, la plus importante. Là-dessus, il y a une discussion sur un point très important. Faut-il épurer ? Que penser des épurations ? Et je crois que cette lettre est extraordinairement intéressante, parce que c'est vraiment un texte, je dirais, qu'on trouve dans tous les processus révolutionnaires ou post-révolutionnaires. Alors, d'une façon générale, il se prononce, il dit les épurations sont nécessaires. Il faut éliminer, il faut véritablement remettre de l'ordre. Mais, dit-il, s'agissant du monde de l'esprit, il ne faut pas épurer. On n'épure pas le monde de l'esprit, c'est une perte d'énergie. Simplement, il faut prendre les meilleurs. Donc, il s'est prononcé très clairement pour pas d'épuration, et je vais revenir là-dessus, c'est un point capital. Et néanmoins, il dit qu'il ne faut pas rappeler les proscrits qui ne seront pas utiles ou qui n'ont pas un bon esprit, c'est tout à fait clair dans son esprit. Donc, il y aura des rangs vides à l'Académie ou des places vides. Et comment les combler ? Alors là, il ajoute qu'il ne faut pas élire des médiocres. Et par conséquent, et ça c'est sa seconde suggestion extrêmement importante, il dit qu'il faudra mettre à l'Académie, comme c'était le cas dans la première Académie, des gens du monde, des gens d'esprit, de l'aristocratie, pour que l'Académie retrouve le caractère qu'elle avait. C'est un point extrêmement important, car c'est en effet l'Académie aristocratique avec les gens du monde, c'était quelque chose qui, au XVIIIe siècle, avait tendu à s'effacer. Alors, et il met d'ailleurs son terme, c'est « mettons ». Ça n'est pas « élisons », ça n'est pas « choisissons », c'est « mettons ». Ça m'a beaucoup frappé parce que ça mérite qu'on s'interroge sur le sens. Alors, si on vient au texte du 21 mars, qu'est-ce qui se passe dans ce texte ? D'abord, il est clair que le roi Louis XVIII, dès 1815, s'était posé toutes ces questions, et particulièrement, on le sait par Suard, qui était secrétaire perpétuel de l'Académie. Suard a eu une histoire très compliquée. Il avait été élu à l'Académie en 1803. Avant la Révolution, d'ailleurs, il avait été élu, il était désélu, puis il était revenu. En 1803, il retrouve sa place à l'Académie, il devient secrétaire perpétuel, enfin dans la deuxième classe, il en est secrétaire perpétuel, et il sera élu secrétaire perpétuel le 21 mars 1816, et il le restera jusqu'en 1817. Donc il a une vieille, je dirais, carrière de secrétaire perpétuel, et il a été très proche, Louis XVIII l'a consulté, et dès 1815, on voit ça dans les souvenirs, dès 1815, il a eu des entretiens là-dessus, et son rôle n'a pas toujours été très positif, je vais en dire un mot tout de suite. Alors, donc si vous voulez, c'est l'Académie française, que faire avec l'Académie française a été une grande préoccupation du roi. Alors, dans le texte de 1816, dans l'ordonnance, le roi suit incontestablement le projet de Chateaubriand, l'Institut, l'Académie française, à la première place, le premier rang hiérarchique. Et jusque-là, tout va avec ses 40 membres. Mais là où on se trouve un peu en désaccord avec Chateaubriand, le roi va épurer. Il va épurer 11 membres de l'Académie. Il va les chasser, dont Cambacérès, Lucien Bonaparte, Gara, et il va nommer 8 membres, 8 grands seigneurs, exactement la succession de Chateaubriand. Il ne l'a pas suivi pour l'épuration, il le suit, mais au-delà, il nomme de sa propre autorité, et d'une certaine façon, cette première Académie post-1816 retrouve le caractère aristocratique de l'Académie antérieure à la Révolution, surtout antérieure à l'époque des Lumières. Et les académiciens l'ont ressenti. Ils ont ressenti surtout cette procédure de nomination. Le comte Lainé, qui a été dans les nommés, dans les huit nommés, a considéré qu'il n'était pas un académicien digne de ce nom. Il a refusé de venir à l'Académie jusqu'au jour où, peu d'années plus tard, il a été élu directeur en son absence par ses confrères, et il a considéré qu'ayant été élu, il pouvait devenir un académicien. Mais c'est dire qu'il y a eu un véritable froissement. Alors, je dirais qu'il est évident que le texte de Chateaubriand a joué un rôle dans les décisions de Napoléon, mais pas complètement. Napoléon ne l'a pas suivi sur ce point décisif de l'épuration. Et tout de même, alors les nominations, c'est plus ambigu, c'est la question que je me pose, parce que ce mettons des grands seigneurs, ça peut vouloir dire, en effet, c'est une extension du mot nomon qui était utilisé à l'Académie, mais les nominations recouvraient des élections dans la période pré-révolutionnaire. Alors là, dans quelle mesure Chateaubriand avait-il imaginé qu'il y aurait des nominations? En tout cas, le roi Louis XVIII et l'Académie lui en a beaucoup voulu, durablement voulu. On peut dire que jusqu'en 1840, l'atmosphère de cette Académie, qui avait exclu un certain nombre de ses membres, et c'est là que Suard a une responsabilité, on sait qu'il a participé véritablement, il a conseillé Louis XVIII en lui indiquant qui était peu désirable, qui devait être éliminé de l'Académie, ce qui est assez triste, et c'est probablement la raison pour laquelle véritablement, et ses relations se sont tendues après avec l'Académie. Mais jusqu'en 1840, il y a eu un climat assez compliqué jusqu'au jour où les nommés ont disparu de l'Académie, tout simplement parce que le ciel s'est chargé de les rappeler à lui. Donc, en définitive, c'est, je dirais que l'Académie, telle qu'elle sort de l'ordonnance de 1816, est le reflet, jusqu'à un certain point, un grand point de la pensée de Chateaubriand, sauf sur cette question des épurations et des nominations. Et la question des nominations, c'est une violence que le roi Louis XVIII, qui pourtant respectait l'Académie, il l'a remise à sa place, mais en même temps, il a fait ce qu'avait déjà fait ce qu'avait fait le premier consul en 1803 en nommant des membres. Et Bainville disait l'Académie a subi deux violences, en fait elle en avait subi trois, il disait la violence révolutionnaire et la violence de Louis XVIII, et il oubliait celle de Napoléon. Je vous remercie de votre attention, monsieur notre généreux mécène. Une fois encore, je veux vous dire notre gratitude, et particulièrement la gratitude de l'Académie qui se retrouve dans ce texte que vous avez eu la générosité de lui offrir.
Eh bien, je crois que M. de Broglie et Mme Carrère-Dancausse ont dit l'essentiel. D'abord, les remerciements à M. Bonnat, à qui nous devons cette pièce merveilleuse. Et je vais essayer de simplement faire une modeste explication du texte de cette lettre et de la replacer dans l'image générale que nous nous faisons de Chateaubriand. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais toujours été étonné de voir Chateaubriand, qui était l'image du monarchiste très affirmé, porté en triomphe par des étudiants en 1830. Et je comprenais difficilement ce qui s'était passé. Et il me semble que cette lettre, qui se situe 8 mois après Waterloo, c'est quelques mois après Waterloo, au moment, vous l'avez rappelé, monsieur le chancelier, au moment où il y a la chambre introuvable, qui va d'ailleurs être dissoute bientôt, avec, enfin, monsieur Fumaroli dira tout ça mieux que moi, avec un gouvernement Richelieu. Et cette lettre de Chateaubriand, il m'a semblé qu'elle était à la fois très émouvante et qu'elle ne manquait pas, comme souvent dans Chateaubriand, d'un certain aspect comique. Et la phrase fondamentale de cette lettre, vous en avez cité des extraits, est comme une espèce de tableau général de l'œuvre de Chateaubriand. Je la cite, elle a 3 lignes. « J'ai l'honneur d'être un de ces petits esprits sortis de cette nouvelle école qui enseigne que le christianisme n'est nullement ennemi des lettres, des sciences et des arts. Vous avez là le Chateaubriand du génie du christianisme. De plus, Je suis royaliste incorrigible. Là, vous voyez l'auteur de Bonaparte et des Bourbons. Et immédiatement après, et pourtant, si les préjugés m'accablent, vous allez voir que par une bizarrerie de l'esprit humain, je ne laisse pas aussi d'avoir mon coin de libéralisme. Et voilà le monsieur qui sera porté en triomphe en 1830. Vous l'avez très bien dit, monsieur le chancelier, il n'a nullement sauvé les académies. Les académies allaient être tout naturellement restaurées. Les académies avaient été détruites en 1995 par l'Institut avec ses classes qui remplaçaient les académies royales, et le rôle d'Institut de Tracy était évidemment très important. Et il était évident que les académies royales allaient renaître. Ce que fait Chateaubriand, c'est qu'il sauve l'Institut. Il sauve l'Institut avec une formule très, très simple. Ce serait une grande faute de renoncer à ce que la Révolution peut avoir produit d'heureux au milieu de tant de malheurs. Conservons donc le nom d'Institut. Tous les mots qui peuvent réclamer quelque gloire sont naturalisés français. Donc, l'Institut a été sauvé par Chateaubriand. Mais toujours ce jeu d'équilibre, il détruit tout de même les classes pour rétablir les académies à l'intérieur de l'Institut, avec l'Académie française qui est la formule de Chateaubriand, et l'Académie française sera nommée la première. Vous avez bien dit, madame, le problème de l'épuration. Naturellement, il ne marche pas ces mots. Je suis en général très prononcé en faveur du système des épurations. Et évidemment, quand on a lu dans les mémoires d'outre-tombe le passage probablement le plus célèbre, avec le passage du père, avec son bonnet blanc à Combourg, le passage de Fouché et Talleyrand, le vice appuyé sur le crime, ne serait-ce pas une insigne folie que de conserver dans leur place des hommes qui nous ont trahis et qui sont prêts à nous trahir encore. Par quel calcul insensé et abominable repousserait-on toujours ses amis pour se jeter dans les bras de ses ennemis ? Voilà, c'est tout un manuel de politique même contemporaine qui est mis en scène par Chateaubriand. Mais immédiatement après, il y a le même balancement que pour l'Institut et les académies. Le système d'épuration doit-il être étendu jusque sur les académies ? Je ne le pense pas. Et les explications qu'il donne pour se justifier sont quand même très amusantes. On ne peut pas donner du talent et du génie à qui n'en a pas. Un commis, un percepteur sont aisément remplaçables. Mais qui saurait remplacer un Racine s'il avait malheureusement été entraîné par les principes de la Révolution ? Trissotin, fut-il royaliste, ne fera jamais Attali. Il y a évidemment un côté extraordinairement comique dans ce balancement perpétuel. Et vous êtes passé pudiquement, monsieur le chancelier, madame le secrétaire perpétuel, sur un peu de démagogie aussi. Il pense qu'une bonne chose, ce serait d'augmenter les traitements. Et ce serait bien. Et alors, il repousse, il envisage même, on pourrait me dire qu'il faut aider les plus pauvres. Mais aider les plus pauvres, c'est trop humiliant. Non. Et il dit qu'il y a un très bon système qu'on devrait bien remettre à l'honneur, c'est le système des jetons, parce que ça justifie ceux qui travaillent à l'égard de ceux qui sont absents et qui ne travaillent pas. Et il envisage même ce qui se passe de nos jours, des réunions des différentes académies en une seule séance publique. Ils pensent qu'il faut distribuer des prix et que chaque fois qu'un prix sera distribué, attribué, on donnera la Légion d'honneur aux lauréats. Ça, ça nous entraînerait un peu loin. Et ils proposent que l'Institut soit installé au Louvre. Et ils proposent aussi que la statue du protecteur soit mise au milieu de l'Institut. Nous pourrions avoir une statue de Chirac, Sarkozy ou de Hollande. Et on voit le glissement petit à petit dans la lettre du réformateur monarchiste et libéral, tantôt monarchiste, tantôt libéral, en un véritable ministre de la culture. Il voudrait que l'Institut au Louvre ait des collections où l'Inde, le Siam, l'Égypte seraient représentées et où il y aurait une salle qui serait la salle Pompéi. Et il propose que les grands peintres de l'époque, et il les cite, Giraudet, Gérard, Gros, tous ceux qui peindront, et lui et Madame Récamier, fassent des fresques sur les murs de l'Institut. Peut-être qu'on devrait demander à Garouste, à Mathieu ou à Dubuffet de peindre nos murailles. Il va beaucoup plus loin que l'Institut dans cette lettre. On voit une espèce de ministre de la Culture qui parle de couvrir Montmartre avec des bois de pin. Et ce ministre de la Culture finit par devenir un ministre de la Propagande, assez nettement. Et il y a aussi une phrase bien intéressante. Au fond, on ne doit pas compter si rigoureusement avec les opinions des artistes. Sans se mêler de politique, ils achèvent sous Trajan ce qu'ils ont commencé sous Domitien. Naturellement, Domitien, c'est Napoléon, et Trajan, c'est Louis XVIII. Et ça veut dire prenez les mêmes et recommencez. Et comment faire? Et il donne la façon de procéder. Honorez, c'est dans la lettre, honorez-les. Ouvrez-leur votre maison et votre table. Faites parler d'eux. On voit qu'il n'y a pas encore les médias et qu'il se dit la vanité des auteurs et des artistes, il faut en parler. Faites parler d'eux, employez leurs talents. Et sur les artistes et les écrivains, ils font naître parmi nous un autre genre d'intérêt et de passion qui nous arrache à ces discussions politiques qui fatiguent le gouvernement. Et on voit que là encore, il est déchiré un peu. Ces discussions politiques qui fatiguent le gouvernement, il va les incarner mieux que personne. Mais il sera aussi sauvé parce qu'il est un artiste. Et chacun sait que c'est cela, l'échec de sa vie politique qui va construire son génie littéraire. On pourrait dire, à la fin de cette lettre, qui est si émouvante, si intelligente, avec quelques côtés un peu comiques, ironiques, pragmatiques, peut-être un peu cyniques, on pourrait presque penser à une formule qu'emploiera plus tard un de ses adversaires et admirateurs, « Je crois aux forces de l'esprit ». Eh bien, il croit aux forces de l'esprit. Merci beaucoup.
Mais en effet, après tous ces discours, je dois dire que je suis un peu embarrassé. Je voudrais simplement rappeler un certain nombre de choses. Lorsque la restauration a été réussie, et ce n'était pas tout à fait prévu au départ, les alliés étaient très divisés là-dessus, le nouveau roi a pris pour devise, et son parti également, union et oubli. Oubli et union. C'était donc déjà prendre parti sur la question de l'épuration. Et en effet, la première restauration s'est bien gardée de procéder à une épuration. Chateaubriand, d'ailleurs, dans sa lettre, à un moment, le reproche au régime. Il n'a pas assez procédé à l'épuration. Il va faire la distinction que vous avez rappelée à deux ou trois reprises, et qui est très profonde, d'ailleurs, entre l'épuration des hauts fonctionnaires, ou des militaires, ou des hommes qui ont, en quelque sorte, pris le parti de l'État antérieur, et puis l'épuration d'hommes de lettres, d'hommes de science, d'hommes de l'esprit. Et on ne touche pas à l'esprit, on ne n'appauvrit pas un pays en faisant comme on l'a fait à d'autres périodes, chassant des écrivains, les persécutant ou même les fusillant. Alors, je crois que là, il y a un point de vue extrêmement courageux de la part de Chateaubriand, comme vous l'avez rappelé peu de temps après Waterloo, de reprendre à son compte la devise « oubli et union », mais en tenant compte également du fait que les événements qui se sont passés, que Waterloo a en quelque sorte obligé le régime à procéder à un certain nombre de punitions ou d'expulsions. Alors il y a là, je crois, un fait que vous avez souligné, Monsieur d'Ormesson, par l'idée d'un équilibre, mais je crois aussi qu'il y a chez Chateaubriand une volonté d'être à la fois un loyal ultra et d'être à l'intérieur du parti ultra le mouvement ou l'attitude libérale. Et d'ailleurs, dans la correspondance que nous sommes en train d'étudier et que nous allons publier entre Chateaubriand, Madame de Duras et Humboldt, on voit très bien que Chateaubriand apprécie ce grand Allemand qui a voulu vivre à Paris pendant la Révolution, qui a continué à vouloir vivre à Paris pendant la Restauration et pendant le régime de Juillet. Il voit à Paris, effectivement, un des grands centres de la littérature, des arts et de la science. Et il considère donc que s'il prend parti pour l'Institut contre un retour au système d'ancien régime, c'est que effectivement, il a constaté que la Révolution, bien qu'il a prononcé ce mot atroce à propos de Lavoisier, la Révolution n'a pas besoin de savants, en réalité, elle n'a jamais eu autant de savants que pendant cette période, et quels savants ! Des savants comme Guy Lussac, des savants comme tous ceux qui ont collaboré au Jardin des Plantes ou à l'Observatoire, et qui attirait effectivement à Paris des hommes de la qualité d'un Bolt Alexandre et d'un Bolt Wilhelm. D'autre part, il y a un autre aspect de la lettre que M. d'Ormesson a eu le mérite de souligner, c'est qu'il n'est pas seulement question des académies, du statut de l'Institut et du statut rendu à l'Académie française à la tête de l'Institut. Il y a aussi des réflexions approfondies sur le lieu où l'Institut doit être installé, et quand même, Napoléon l'avait installé ici. Donc il s'agit d'un retour en arrière. Il s'agit de ramener, comme sous l'Ancien Régime, les académies dans les différents étages du Louvre, et de les installer au milieu de leurs propres ressources, si j'ose dire, en particulier pour l'Académie des Beaux-Arts, au milieu des collections de statues, des collections de tableaux, et également d'instruments de musique, effectivement, ou également de collections relevant des inscriptions et médailles. Alors là, on voit Chateaubriand, effectivement, faire un pas en avant du côté de la gauche, si j'ose dire, en réclamant le maintien de l'Institut, et faire un pas du côté de la continuité et de la conservation en revenant au Louvre et en ramenant les académies dans le palais qui les avait tellement honorés. Parce qu'il ne faut pas oublier tout de même qu'un des grands gestes d'Henri IV, ça a été d'installer au Louvre le premier
des artistes en poussant de plus en plus la cour du côté des Tuileries et en réservant en quelque sorte le Palais Royal aux arts. Ce qui fait que les arts se trouvaient royalisés. Les arts se trouvaient à un niveau de dignité qu'ils ne trouvaient pas dans d'autres pays, ou même à Rome, où pourtant les arts ont été portés par la papauté à un degré de splendeur inégalé, eh bien, la papauté n'a jamais osé installer ses artistes au Vatican. Tandis que le roi de France l'a fait. Et Chateaubriand en est parfaitement conscient, et c'est pour ça qu'il insiste si bizarrement sur le retour des académies au Louvre. Par ailleurs, effectivement, il ne s'intéresse pas seulement à la situation des académies, mais il s'intéresse également à la figure de Paris. Et en ce sens, il continue une œuvre qui est celle de Voltaire. Il ne faut pas oublier que Voltaire, à partir de 1720-1730, a publié une série de pamphlets, enfin de textes courts d'ailleurs, qu'il a appelé « Les embellissements de Paris », et où, reprochant au régime du cardinal Fleury, et naturellement au régime du régent, de n'avoir pas continué l'œuvre de Colbert, et de n'avoir pas fait de Paris la plus belle ville du monde. Une ville où il y a de magnifiques monuments, des villes où il y a de la verdure, où il y a des fontaines. Il insiste beaucoup sur les fontaines et il compare Rome et Paris. Il y a Rome, il y a des fontaines partout. C'est le bonheur de cette ville. À Paris, il n'y a pas de fontaines, ou alors ce sont de petites coulées d'eau qui n'ont pas d'intérêt. Et là, on voit effectivement, vous avez prononcé le mot de ministre de la Culture, il y avait chez Voltaire, effectivement, une véritable vocation à prendre en main, en quelque sorte, ce qu'on appelait à ce moment-là les bâtiments du roi, et en tout cas, les conseiller, les orienter, leur donner des grandes lignes à suivre. Et Chateaubriand, là, se retrouve dans le rôle du grand écrivain qui a la responsabilité de tout ce qui touche à la beauté et qui est capable donc de donner aux responsables, dont il ne veut pas être parce qu'il n'a pas envie de devenir un haut fonctionnaire, ni en plus forte raison haut fonctionnaire dans un domaine relativement secondaire, eh bien, il a fait ce qu'il a pu pour que le gouvernement de Louis XVIII se rende compte qu'il avait des devoirs vis-à-vis de la capitale française. Alors, il y a dans ce texte des richesses considérables. Elles intéressent l'Institut, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, à la bouche de monsieur le chancelier. Elles intéressent l'Académie française, nous l'avons entendu dans la bouche de madame la secrétaire perpétuelle, mais elle intéresse aussi le Louvre. Et je suis surpris de ne pas voir monsieur Rosenberg, mais peut-être n'avait-elle pas lu le texte. On est en train d'écrire une histoire du Louvre. Il est évident que cette lettre est un point très important de l'histoire du Louvre. Et de même, il y a des dizaines et des dizaines de biographies de Chateaubriand. Il y en a une en particulier très brillante de Berchet. Eh bien, il n'a pas question une seconde de cet aspect de Chateaubriand et de ce caractère qui me séduit tellement, celui d'une grande responsabilité vis-à-vis de l'État dans sa longue durée française, quel que soit le régime. Et là, il est amené même à intervenir dans des domaines où, à première vue, ce poète, ce prosateur, ce romancier, ce théologien de second rayon, si j'ose dire, mais enfin tout de même assez bien informé, n'avait pas à première vue de raison d'intervenir, et il est intervenu. Donc voilà toutes sortes de raisons que j'essaye d'ajouter à toutes celles que nous avions vues du premier coup d'œil et qui font de ce texte, publié d'abord à Paris, après à Londres. Il me semble que ce Pelletier qu'il a publié à Londres est probablement le même que celui qui, pendant qu'il était à Londres exilé, l'a tellement aidé, l'a tellement soutenu, lui a permis de publier même son premier livre, L'essai sur les révolutions. Eh bien là, il a marqué en quelque sorte la continuité de ses ambitions et de sa vocation, et aussi, je dois dire, de sa générosité. Alors, ce que vous avez désigné, M. d'Ormesson comme un côté ironique ou comique, je crois que c'est avant tout un sens extraordinaire de bon sens. Il ne veut pas être un idéologue. Il n'est pas d'un côté contre de l'autre. Il veut prendre le bon des deux parties et que la France triomphe. Eh bien, je crois que c'est une leçon qui ressort de ce texte, en dehors de toutes les autres, et que nous sommes très contents d'entendre aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'elle résonne dans nos esprits et dans nos espoirs. Et encore mille merci à M. Bonnat, qui m'a aidé dans d'autres circonstances, avec une extraordinaire générosité, une extraordinaire discrétion, et qui, là aussi, a fait un geste superbe pour nous tous, pour le Louvre et pour cette maison. Merci encore.
Monsieur le chancelier, Madame le secrétaire perpétuel, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis évidemment un peu ému ce soir et ça n'est pas la première fois que je suis ému en France. J'ai été ému à l'École des Beaux-Arts il y a presque 10 ans. J'ai été ému dans cette même maison, il y en a presque 3. Et j'ai été ému au Louvre récemment. Chaque fois, j'ai relevé à quel point, bien que n'étant pas français, à quel point, à part que j'ai une fille française, mais bien que n'étant pas français, à quel point la France était ma, et Paris en particulier, était ma capitale culturelle. J'ai eu l'occasion d'être honoré plusieurs fois, et aussi, c'est vrai, de faire un certain nombre de choses pour l'École des Beaux-Arts, pour le Louvre, pour le et maintenant pour l'Institut, qui m'a fait d'ailleurs l'immense honneur de me coopter comme correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, et je suis particulièrement heureux que M. Dautrive soit ici ce soir. J'aimerais vous dire que c'est pas particulièrement évident pour un Genevois, parce que vous savez, en Suisse, on n'est pas Suisse, hein. On est d'abord Genevois. Et je viens d'une famille où on est Genevois depuis plus de 600 ans. Et c'est vrai qu'on a été français 15 ans, de 1798 à 1813. C'est pas 15 ans particulièrement heureux de l'histoire de Genève. En fait, je ne suis Suisse que depuis 1815, grâce à un Français d'ailleurs, grâce à Talleyrand, qui a réussi à rattacher Genève à la Suisse, avec l'aide d'ailleurs de M. Pité de Rochemont, mais sans lui, Genève serait probablement restée la préfecture du département du Léman. Tout ça pour vous dire que je suis vraiment particulièrement heureux de cette occasion qui m'a été donnée de vous offrir cette lettre qu'il me semble particulièrement importante pour l'Institut. Et quand votre chancelier, qui est aussi le président des bibliophiles François et qui m'a fait l'honneur, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, de me coopter comme membre étranger, de me faire coopter comme membre étranger, j'essaye de manquer le moins de séances possibles de cette remarquable institution, et c'est lors de notre Assemblée Générale que vous m'avez parlé de cette lettre. Et je vous ai dit, en effet, il faut qu'elle entre chez vous, et on va essayer de tout faire pour qu'elle entre, et heureusement, elle y entre dans de très très bonnes conditions. Il se trouve que c'est vrai qu'elle est très importante pour l'Institut. Elle est très importante pour l'Institut, et je ne vais pas répéter tout ce que je viens d'entendre. J'entends, je le dirai forcément beaucoup moins bien que vous. Mais j'aimerais vous dire quelques mots sur Chateaubriand, parce qu'il me semble qu'on n'a pas insisté assez sur le fait que Chateaubriand... D'abord, peut-être qu'il faut que je vous dise, parce que certains d'entre vous ne le savent pas, que j'ai essayé de rassembler au cours de maintenant presque 60 ans une collection de littérature française qui est assez complète. Et que j'estime que dans cette, euh, dans ce panorama de la littérature française qui va du roman de Mélusine, qui est le premier, texte littéraire publié en France, imprimé en français, parce qu'il y a beaucoup de manuscrits avant, mais le premier texte imprimé en français, bizarrement à Genève d'ailleurs, en 1479, par un imprimeur allemand qui venait de Mayence, en passant par Bâle, Genève, et qui finit à Lyon. Je n'ai pas la première édition parce qu'on ne connaît qu'un seul exemplaire complet de la première édition qui se trouve à Wolfenbüttel, mais j'ai le seul exemplaire complet de la seconde, qui est quelques années après. Donc ça, la collection commence là et elle finit avec le début du XXe siècle parce que je trouve qu'au XXe siècle, l'histoire n'a pas encore fait son choix vraiment et c'est très difficile de savoir ce qu'il faut avoir et ce qu'il ne faut pas avoir. Et j'estime que sur toute cette immense histoire littéraire, il y a un chaînon qui est absolument essentiel, c'est Chateaubriand. Et Chateaubriand est un chaînon essentiel parce qu'il est le lien, il est le passage. Et il se qualifie lui-même de royaliste, d'ultra-royaliste, mais il est le passage au romantisme. Il est, à beaucoup d'égards, il est le continuateur de Rousseau. Et c'est une chose qu'on ne dit pas assez souvent, c'est le premier des grands romantiques, Chateaubriand. Et c'est lui qui transforme la littérature française, qui ouvre ce 19e siècle qui va être... Alors, certains pensent que c'est Sénancour, mais évidemment, Chateaubriand est très supérieur, c'est certainement un des 10 plus grands écrivains de la langue française. Et grâce à un libraire que j'aperçois là derrière, j'ai la chance d'avoir dans ma bibliothèque une collection de Chateaubriand, je crois, assez exceptionnelle. Et dans cette collection, il y a une chose qui est assez remarquable. Vous avez dit, Madame le secrétaire perpétuel, que, élu en 1811, Chateaubriand était venu assez rarement à l'Académie française. Il a quand même dû y venir deux ou trois fois, et il est notamment venu en janvier 41. Et il est notamment venu en janvier 41, et il a voté pour Victor Hugo. Et c'est un point extrêmement important, parce que Victor Hugo, c'est la personnification du romantisme. Et c'est étonnant que quelqu'un comme Chateaubriand vote pour Victor Hugo. Et Victor Hugo en est tellement ému, et j'ai ces deux lettres dans la collection, et Victor Hugo en est tellement ému qu'il va... Il va lui rendre visite pour le remercier. Il ne le trouve pas, évidemment, il n'était jamais chez lui. M. d'Ormesson, c'est ça mieux que personne. Et alors, il lui écrit. Et il lui écrit une lettre très hugolienne que je ne sais plus par cœur, mais qui se termine comme ça. Il lui dit, écoutez, je suis venu et je reviendrai parce que j'ai besoin de vous voir. Et il termine en disant, pour quelqu'un qui le mériterait, votre suffrage, monsieur le vicomte, c'est un sacre. Et Chateaubriand lui répond, le surlendemain, avec sa grande écriture, qui d'ailleurs a beaucoup changé par rapport à l'écriture qui est ici. C'était en 41, il a une écriture qui est beaucoup plus difficile à lire, qui est des grands jambages, comme ça. Chateaubriand lui répond une lettre assez courte, et que je ne sais pas entièrement par cœur non plus, mais qui commence comme ça, et je trouve ça absolument magnifique. Il lui dit, écoutez, cher monsieur, ne revenez pas me voir. Vous ne devez rien à personne. Votre génie y a tout fait. Vous avez placé vous-même votre couronne sur votre tête. Et c'est évidemment une allusion au sacre de Napoléon. Donc, c'est tout ça pour dire que pour moi, et d'ailleurs je pense pour beaucoup de gens, Chateaubriand est un lien absolument essentiel entre l'Ancien Régime et le romantisme. Et c'est parmi les plus belles langues de la langue française. Et les plus belles lignes de la langue française sont dans les mémoires d'outre-tombe. Vous l'avez tellement bien souligné, j'entends. Et un de mes livres de chevet, ça a été Mon dernier rêve, sera pour vous. Voilà, et c'est aussi pour ça que je vous offre cette lettre. C'est pour remercier l'Institut, pour remercier la France de tout ce qu'elle m'a donné. Mais c'est aussi parce que j'ai une affection toute particulière pour Chateaubriand.